Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet. Vous écoutez Et maintenant, le podcast qui souhaite vous accompagner dans votre réflexion lorsque vous êtes confronté à des choix et que plein d'incertitudes, vous vous demandez « Et maintenant ?» Pour ce numéro de rentrée, je vous propose de rencontrer un professionnel, si j'ose dire, de la décision. Il a voulu sa vie durant garder la barre, choisir sa route. Médecin généraliste, il a pendant une quarantaine d'années accompagné des malades qui devaient répondre à la question « et maintenant ?» après un diagnostic qui bouleversait le cours de leur vie. Lui-même, il s'est confronté à un « et maintenant » majeur en décidant de prendre sa retraite et de couper ainsi le fil conducteur de son existence. Je vous invite à écouter le docteur Yves Fourré, qui a accepté de partager avec nous ce qu'il avait en main pour décider et à qui tendait la main pour continuer.
Bonjour, je m'appelle Yves Fourré et je suis médecin généraliste. Je suis marié et avec ma femme, nous avons eu 5 enfants. J'ai décidé il y a 1 an et demi de mettre un terme à ma carrière de médecin, et donc s'ouvre devant moi, j'allais dire, une nouvelle vie. Le passage d'une vie professionnelle très active à la retraite correspond à mon avis à un vrai travail de deuil. Il s'agit de se dire que l'avenir nous est ouvert, mais qu'on sait qu'on a un certain nombre de choses, on ne le refera pas. On ne verra plus ces patients avec qui on a pu lier des moments un petit peu d'amitié, des patients qu'on n'a pas envie de revoir, des patients qu'on a accompagnés de façon transgénérationnelle pendant 20, 30, voire 40 ans. Et l'arrivée de la retraite nous fait dire que ce type de relation humaine est fini. Il n'en reste pas moins que l'enrichissement que m'a apporté mon métier, notamment au niveau relationnel, va me servir de toute façon pour les années à venir. Ce que j'ai en main, c'est évidemment les 70 ans qui précèdent le jour d'aujourd'hui, avec deux grandes composantes, si je peux dire, une composante professionnelle et une composante familiale. D'un côté, le médecin généraliste, c'est le médecin à la fois du corps et de l'âme, et de l'autre côté, le père de famille, c'est celui qui a donné la vie et qui doit en même temps assumer la pérennité de cette vie familiale, tant au point de vue présence, amour, mais aussi au point de vue financier. Donc, dans ma main, j'ai ces deux composantes qui perdureront, quoi qu'il arrive, que ce soit en ce qui concerne ma famille, et mon passé, qui restera pour moi gravé à jamais. Mon passé professionnel, il est important parce que ma profession a occupé quasiment 50 à 60 heures de mes semaines depuis quasiment l'âge de 19 ans, l'âge à laquelle je suis rentré à la faculté de médecine de Lyon, pour en sortir quelques années plus tard avec le titre de docteur en médecine. Parallèlement à cette carrière hospitalière, j'ai mené de front une activité libérale de médecin généraliste, de médecin de famille. Heureusement, j'étais très bien secondé par ma femme qui gérait le quotidien.
Devenir médecin, est-ce le choix d'un métier ou la réponse à un appel, une vocation ?
Ne me voyez pas faire autre chose. Certains pensent être pompiers, avocats ou militaires. Moi, dans ma tête, je serais médecin. Alors, est-ce que le petit Fourré de 12 ans le savait ? Pourquoi il voulait être médecin ? C'est pas sûr. Est-ce que Paul, sur le chemin de Damas, allait savoir que sa vie allait être changée complètement? Pas sûr. Donc, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Peut-être que la vocation, c'est ça, c'est quelque chose d'intuitif. C'est un objectif aussi d'arriver à assouvir ce besoin vital, ce besoin essentiel qui était je serai un jour médecin. Donc je pense qui caractérise mon parcours, c'est une volonté indéfectible, mais une volonté presque immature, presque sans limite, d'obtenir l'objectif, enfin d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, être médecin. Une fois que je suis devenu soignant, cette volonté permanente de la performance ne m'a jamais quitté. En effet, je me suis engagé parallèlement à ce que j'ai déjà dit précédemment dans la formation médicale continue. J'ai toujours estimé que les compétences médicales qu'on obtient en une dizaine d'années d'études sont largement insuffisantes pour être pérennes sur les 30 ou 40 ans de l'activité professionnelle. Donc j'ai mené, alors là aussi avec une volonté assez affichée, de travailler au plan syndical pour que la formation des médecins généralistes soit reconnue et soit proposée à l'ensemble de mes confrères, et ce à travers un engagement dans une association nationale de formation médicale continue des médecins généralistes. Cet engagement, devait permettre l'entretien de savoir, mais surtout de compétences, c'est-à-dire d'un savoir-faire en action, que je me suis imposé et que j'ai essayé de proposer à tous les confrères que j'ai pu côtoyer au cours de ma carrière. Science et conscience, évidemment, sont très intimement liés dans ma démarche, et cette confiance dans la science, c'est aussi une forme d'humilité que justement on ne sait rien à un temps donné, et que ce qu'on croit savoir est remis en question dès le lendemain. En médecine, on admet que la moitié de nos connaissances sont à renouveler tous les 5 ans. Et à partir de ce principe, je pense que faire confiance à la science pour soigner les corps et les âmes nécessite effectivement un regard à la fois très critique, mais en même temps très humble. Et c'est ces deux paramètres qui m'ont toujours permis d'avancer à petits pas. Et on pourrait prendre des exemples. Par exemple, dans ma carrière, par rapport à ce que j'ai appris à la faculté, je n'ai été confronté qu'à 2 nouvelles maladies. Quand j'ai fait mes études, le sida n'existait pas, je l'ai découvert au fur et à mesure de mon exercice professionnel, qui a nécessité justement d'acquérir des compétences qu'on ne m'avait jamais enseignées, et donc de me former avec mes pairs, qui était plus spécialisé sur le sujet, de façon à pouvoir, dans ma clientèle, suivre et accompagner les patients atteints de sida, notamment dans la fin des années 80, le début des années 90. La deuxième maladie, c'est la Covid. Et pour moi, en tant que médecin, ça a été un sujet scientifique particulièrement intéressant, dans la mesure où justement on ne connaissait rien de cette maladie, et que au fur et à mesure de son développement, au fur et à mesure du travail des scientifiques, nous avons pu comprendre et puis mettre en œuvre les moyens pour traiter les conséquences souvent néfastes, notamment au début de la pandémie, concernant donc la gravité des symptômes. Ce qui m'a toujours intéressé, dans la position, dans ma position de médecin généraliste, c'est que justement, si la science répond à des exigences, j'allais dire quasiment binaires, c'est ou c'est pas, l'expérience marche ou ne marche pas. Dans la médecine générale, la deuxième composante, c'est l'individu, c'est l'être humain, qui lui, dans sa façon de fonctionner, ne correspond pas à une démarche binaire de type scientifique. Et la grande richesse de la médecine générale, c'est de pouvoir associer des compétences scientifiques, pouvant s'appuyer sur des algorithmes, sur des démarches scientifiques complexes, mais aussi doit tenir compte de la spécificité de chacun des patients qui est en face de nous, avec son histoire, avec sa culture, avec son mode de vie, avec ses suffisances et ses insuffisances. Et c'est cette association des deux composantes, d'un côté une science normative et de l'autre côté une science humaine non normative, fait l'intérêt que, enfin, m'a permis de pratiquer ce métier pendant 40 ans avec toujours le même plaisir et le même bonheur.
Yves Fourré, quelle est la place de la foi dans l'exercice de ton métier ?
Avoir la foi, c'est quoi ? Hier, j'ai assisté à un enterrement, un de plus, et tous les mots qui ont été proposés par le diacre, pour lui, résonnaient de façon très creuse pour moi, sauf pendant l'homélie où il est redevenu un homme. Mais le reste du temps, les mots Dieu m'accueille, Dieu va accueillir en son sein celui qui est dans ce cercueil, et Dieu dans sa grande miséricorde, soyons joyeux de tout ça, pour moi ça, c'est une sémantique qui n'a plus de sens. Avoir la foi dans mon métier, donc finalement, ça reposait sur une croyance que bien je pouvais aider mon prochain, je pouvais le soigner, mais avec une certitude, c'est que jamais je l'empêcherais de mourir. Donc le lien entre la vie et la mort dans ce métier, et peut-être que c'est ce que c'est ce qui m'a donné l'envie d'être médecin, c'est d'aider l'autre, mais là encore avec beaucoup d'humilité, sachant que je ne serai pas le Père éternel qui l'empêchera de mourir. Donc le lien entre la vie et la mort dans ce métier a été très très fort pour moi, peut-être parce que j'ai été marqué très tôt par la mort, notamment via le décès prématuré de mon père, à l'âge de 39 ans, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais décidé d'être médecin avant son décès. Donc, pourquoi j'ai décidé d'être médecin ? Eh bien, je pense que c'est quelque part une forme de, peut-être de survie, alors c'est possible, que moi-même, pour survivre, il fallait que j'aide les autres à vivre. Si je jouais à Lacan, ce que bien évidemment je suis incapable, J'aurais écrit repère avec RE-père.
Ouais.
Est-ce que au cours de ma vie, au cours de ma vie professionnelle, de ma vie familiale, je n'ai pas cherché en permanence ce père qui était parti trop tôt, et qu'à travers mon métier, notamment à travers ma vie de famille, notamment, j'ai été à la fois ce père pour un certain nombre de mes patients, pour mes enfants, tout en reniant quelque part le rôle de jouer ce rôle de père. Lorsqu'on soigne les gens, on sait très bien qu'en termes d'identification, le soignant peut prendre des postures, en tout cas est vécu par le patient de façon très différente, dans le cadre du transfert et parfois même du contre-transfert. Mais je pense que cette notion d'être un repère quelque part donc, a pu me motiver à faire ce métier. Alors dans ces repères, j'en ai quelques-uns. J'ai notamment la rencontre avec un prêtre qui m'a permis de faire une sorte de psychothérapie lorsque mon père est décédé pendant 2 ou 3 ans. Je l'ai vu régulièrement en entretien. C'était un prêtre. C'était pas un psychologue, mais il avait une forme de psychologie. En tout cas, il m'a certainement beaucoup aidé. Et après, je pense que plus que les individus, donc a priori, là, j'ai pas d'image particulière, c'est plus les structures. La structure syndicale dans laquelle je me suis investi, la structure de formation médicale continue nationale dont je suis arrivé à être le président national pendant une dizaine d'années, et certainement c'est au sein de ces structures que j'ai pu à la fois me confirmer mes choix, améliorer ma pratique et avoir peut-être justement des repères qui m'ont aidé jusqu'à la fin de ma carrière.
Et donc on en arrive à ta prise de décision et maintenant la retraite.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais dans la mesure où c'est un choix, je pense que ce travail a déjà été commencé il y a longtemps, et enfin au moins quelques années, et n'est pas arrivé du jour au lendemain où j'ai baissé le rideau de mon activité libérale dans mon cabinet et où j'ai démissionné de mon poste de président national de cette structure de formation médicale continue. Et donc je pense que c'est une chance. Très souvent, lorsqu'un deuil arrive, les gens sont pris au dépourvu, voire même sidérés, alors qu'ils se préparaient justement à un décès, notamment dans le cadre de maladies chroniques. La chance de pouvoir faire un choix, c'est à partir du moment où ce choix est fait, c'est donc de l'accepter d'abord et de le mettre en œuvre. Et je pense que les différents temps du travail de deuil sont raccourcis, et en tout cas, le deuil est obligatoire à faire lorsqu'on prend sa retraite, mais en même temps, étant raccourci et moins douloureux, il permet de rebondir plus facilement. Cette retraite est aussi une ouverture vers une autre façon de vivre. Et dans ma main, depuis 18 mois maintenant, une des composantes importantes, c'est la gestion du temps. Lorsque l'on travaille 50 à 60 heures par semaine et qu'on se retrouve le lundi matin sans journée organisée, il est évident que le rapport au temps va être considérablement modifié. Ma vision des choses, c'est que c'est comme pour le pouvoir, le tout, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de le conserver et ensuite de le transmettre. On sait que toute activité humaine a un début, a une phase d'état pleine et entière et a une fin. Donc le temps qui passe, c'est aussi, de mon point de vue, c'est être capable de préparer sa fin de façon positive. Je pense que préparer sa fin, c'est comme pour préparer sa retraite, qui est l'antichambre de la mort quelque part, comme la maladie est une antichambre de la mort. Passer de l'état de important à malade, c'est un vrai travail de deuil d'un état antérieur où tout était facile. Et donc le maintenant, dans ma main, il y a la préparation de la sortie. Ne pas rater sa sortie, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et il faudra peut-être bien 20 ou 30 ans pour préparer ma sortie. Donc c'est en même temps une projection sur l'avenir que moi je trouve très positive. Et j'élargirai en disant que c'est un vrai travail de solitude. Préparer sa sortie, ça ne peut se faire que par soi-même. Et quand je parle de solitude, c'est la vision positive de la solitude que Alain, qui était un philosophe du début du XXe siècle, proposait. Il disait, on est naïté seul et on va mourir seul. C'est bien, là encore, une décision de liberté. C'est-à-dire, décider, enfin, préparer sa sortie, c'est tout faire pour que je puisse être conscient jusqu'au dernier instant de ce que je suis à l'instant de mon départ. Donc pour moi, les prochaines années, c'est ça. C'est faire un travail en solitude positive pour préparer cet instant qui est une image en miroir de la naissance que j'ai eue et que nous avons tous eue. À ne pas rater la dernière marche de ce qui aura été notre passage sur Terre, moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Bon, sur ma tombe, je verrai bien, il est enfin en paix. Il a trouvé la paix. Il peut dormir tranquille. Voilà le genre de choses. Marquer l'apaisement. L'apaisement d'une vie bien remplie, d'une vie où il a fallu se battre, où il a fallu trouver l'énergie en soi pour continuer à vivre et partir. L'impression extérieure, c'est quelqu'un d'un peu hyperactif avec de l'énergie, mais une voiture ou un gros camion pour développer beaucoup d'énergie, il a besoin de gasoil. Donc il faut alimenter cette énergie. Et quand je dis combat, c'est que rien ne m'a été donné, mais je pense que chaque individu c'est pareil. On est tous avec une problématique à développer, et que si on veut avoir eu l'impression de, je dis bien l'impression de réussir sa vie, c'est que quelque part on n'a pas attendu que les autres le fassent à notre place. Donc cette énergie vitale, qui est l'énergie qui fait qu'on doit vivre jusqu'au jour où la batterie interne s'arrêtera, elle nécessite une régénération permanente, quotidienne. Cette énergie vitale, là aussi, malgré le principe d'égalité, de fraternité qui est sur nos frontons, enfin sur le fronton de nos mairies, en fait on est très très inégalitaire. L'énergie vitale n'est pas du tout la même d'un individu à l'autre. Sa façon de le régénérer, cette énergie de vie, est très très variable suivant les individus. Et personnellement, je pense qu'une façon, une de mes façons de me régénérer sera d'aider dans l'avenir ceux qui manquent d'énergie, c'est-à-dire éventuellement d'aller aider, comme j'ai aidé toute ma vie, tous les gens qui sont confiés à moi, d'aider de la même façon, à leur donner un peu de l'énergie que j'ai peut-être en trop, pour les aider eux à retrouver cette énergie vitale qui peut leur manquer. Donc c'est dans le rapport à l'autre que je pense que que nous nous régénérons, tout en ayant comme objectif d'aider l'autre, lui aussi, à maintenir son haut niveau d'énergie quand justement il a tendance à en manquer. Donc de ce côté-là, pour moi c'est relativement clair, ce transfert d'énergie, tant que je pourrais le faire, sera pour moi justement un signe d'avancement vers une fin positive, mais de toute façon qui sera une fin, on a bien compris, inéluctable. Pour l'instant je travaille dans un groupe de travail plutôt scientifique, puisque j'anime un groupe de 12 personnes qui travaillons sur des sujets scientifiques, justement à mettre en forme pour les proposer à mes collègues généralistes encore en activité. Donc là, c'est une aide à l'autre à travers un travail important. Et puis après, ben, je pense que ce sera à travers la vie associative d'associations qui tentent d'aider l'autre, si possible dans un environnement non caritatif et plutôt plus neutre, politiquement parlant, quoi.
Merci docteur Yves Fourré, merci Yves de t'être prêté à ma proposition du « Et maintenant la retraite ». Tu nous as bien fait partager tout ce que tu as en main pour affronter cette nouvelle étape de la vie. Ton parcours fut parfois rude et tu as eu la simplicité de nous dire les mains que tu avais saisies. Toi qui as tenu la main de tant de personnes, tu sembles prêt à tendre la main pour insuffler encore un peu de l'énergie dont tu débordes. Chers auditeurs, je souhaite que ce podcast soit le plus possible interactif. Nous sommes tous sachants, nous sommes tous apprenants. Si vous avez des retours à partager sur et avec Yves Fourré, adressez-les-moi, je les lui transmettrai, ainsi qu'aux abonnés de ce podcast. Écrivez-moi Patrice Marcade, M-A-R-C-A-D-E, @c-adire.net. À bientôt.